Il y a de ça quelques jours, j'ai eu un rendez-vous avec un homme qu'on pourrait qualifier de pouvoir. Disons, pour aller vite, c'était le dirigeant d'une entreprise qui, si elle n'est pas énorme, est au moins prestigieuse. L'heure et demie que nous avons passé à deviser agréablement m'a laissé une impression étrange que je n'ai pas réussi à qualifier tout de suite. Il a fallu que je raconte ce rendez-vous à Florent Latrive, que vous connaissez bien parce qu'il dirige le numérique ici même à France Culture, pour que je comprenne ce qui m'avait frappé. Et c'était une chose toute bête. Entre le moment où j'avais serré la main à cet homme en arrivant et celui où il m'avait raccompagné à l'accueil, il n'avait à aucun moment sorti son téléphone. C'est bien simple, en essayant de me remémorer en détail ce rendez-vous, j'arrive pas à me souvenir d'avoir vu son téléphone, au point que je ne sais même pas s'il en a un. Bon, il est improbable qu'il n'en ait pas. Mais pendant une heure et demie, il s'en est passé. Quand on y réfléchit un peu, c'est aujourd'hui un acte rarissime. Quelle que soit la nature du rendez-vous, des rendez-vous qu'on a, de leur durée, il est presque impossible que le smartphone ne fasse pas, à un moment ou un autre, son apparition. Posé sur la table, sorti d'une poche, distraitement caressé, discrètement consulté, voire carrément utilisé pour regarder un fil Twitter, consulter des mails ou carrément répondre à un texto. Et tout ceci, évidemment, pendant le cours de la conversation. Alors, on pourrait analyser cette petite anecdote sous l'angle du savoir-vivre et considérer que cet homme, contrairement à la plupart de ses semblables, est un homme très poli, très bien élevé, qui considère devoir à son interlocuteur sa pleine présence. Ou même, on pourrait expliquer cette attitude par une force de caractère qui nous pousserait à admirer cet homme pour son aptitude à résister à des sollicitations qui, pourtant, doivent être nombreuses. Ce sont deux lectures, pas forcément fausses, mais il y en a une autre, à mon sens, qui est plus intéressante. Dans un excellent livre qui va paraître dans quelques jours, le philosophe américain Matthew Crawford, que Adèle, je crois, a reçu vendredi dernier, s'intéresse à la question de l'attention et à la manière dont le capitalisme contemporain, avec l'aide de toutes les technologies à disposition, crée une véritable crise de l'attention qui nous oblige à repenser les fondements de notre engagement avec le réel. Et au fil de cette analyse, Matthew Crawford fait une remarque pleine de sens. Prenez, dit-il, un aéroport. Les halls destinés au commun des voyageurs sont des jungles attentionnelles. Des publicités partout, sur les murs, sur les sièges, les chariots, des télévisions qui tournent en boucle, les annonces sonores, la musique parfois, tout ça venant s'ajouter à nos propres outils. Il suffit d'entrer dans une salle d'attente réservée aux voyageurs des classes affaires pour y trouver silence et tranquillité des yeux. D'où sa conclusion, l'attention est devenue une denrée rare, donc une ressource de riches. Et Crawford de noter ce paradoxe, les personnes tranquillement assises dans ces salons classe affaires, dans le silence et la tranquillité des yeux, sont sans doute celles qui, par ailleurs, participent au grand marché de l'attention qui produit les halles où il est impossible de se concentrer. Et tout à coup, mon rendez-vous m'apparaît sous un nouveau jour. Certes, cet homme était sans doute poli et goûtait la concentration, mais surtout, il est suffisamment puissant pour se permettre la concentration. Une heure et demie d'attention, une heure et demie pendant laquelle sa position lui permet qu'on n'exige pas de lui qu'il réponde à son téléphone ou à ses mails. Ou alors, c'est une position qui lui permet que quelqu'un d'autre le fasse pour lui, car l'attention étant devenue une ressource rare, on délègue désormais les sollicitations à d'autres. Ainsi donc, montrer qu'on peut accorder toute son attention à quelqu'un pendant si longtemps, alors même qu'on est censé être sollicité, est aussi l'affirmation d'un statut. On voit donc qu'il est insuffisant d'analyser cette question de l'attention sous l'angle de la seule morale personnelle, moi j'ai mes trucs pour rester attentif, mais qu'il y a quelque chose de profondément politique dans cette question, au point que Matthew Crawford propose une solution assez séduisante. Il faut considérer l'attention comme un bien commun, au même titre que d'autres sources menacées de rareté ou de dégradation, comme l'air ou l'eau, il faudrait imaginer une gestion de l'attention qui ne soit pas complètement public, parce que si l'État a le monopole de la gestion de l'attention, on peut craindre le pire, ni privé, ça c'est ce qu'on connaît et c'est pas top, mais commune donc. On pourrait décider collectivement de ce qu'on accepte comme sollicitation, au lieu de laisser chacun dans l'illusion de sa pseudo-autonomie. Alors évidemment, il y a de l'utopie là-dedans, mais au moins ça a le mérite de montrer que si on ne fait pas de l'attention une question politique, on en restera à se plaindre de l'impolitesse de nos semblables, ce qui est assez peu fertile.